azzurri.
Via. Bonjour à tous. 9 livres, des romans qui ont transformé la vie de leur héros et qui vont peut-être aussi transformer la vôtre, ou tout au moins vous permettre de voir différemment certains aspects de la vie du quotidien. Commençons par cette citation du moine bouddhiste et auteur Matthieu Ricard pour compléter cette réflexion. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence, mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Est-ce ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on appelle méditation. Cette semaine, je vous emporte avec des romans de terroir ou de réflexion. J'aime tout particulièrement ces auteurs qui nous permettent de survoler les plus mauvais pressentiments du moment. Encore un livre du terroir, me direz-vous. Oui, je les affectionne et tous d'ailleurs possèdent une trame différente. Celui-ci, donc, qui est de Marie-Nicole Capot, qui vit en Lozère, fille de la ville, elle a choisi de devenir agricultrice. Son écriture s'est donnée au monde paysan une dimension humaine et qui lui confère toute sa richesse. Il s'agit de Chantemerle. Elle nous conte la vie d'un jeune couple et de leur fils Julien. Ils ont quitté la vie citadine pour s'installer dans les Cévennes afin d'élever des chèvres et fabriquer d'excellents fromages. Aujourd'hui, vous l'avez en version poche, mais vous devez savoir que 9000 exemplaires ont déjà été vendus. Elle nous propose un roman d'une étonnante actualité, un texte d'ailleurs qui s'appuie sur une connaissance intime des mœurs paysans et des a priori naïfs de nombreux de nouveaux ruraux. Isa et Jean, meurtris par les dissensions familiales, abandonnent leur pharmacie citadine. Ils tentent de reconstruire leur vie en élevant des chèvres dans les Cévennes. Cependant, ils aperçoivent rapidement qu'il est fort difficile et délicat de s'intégrer dans le monde rural. Pour les paysans, ils demeurent des gens de la ville, dont il convient d'ailleurs de se méfier. Et leur réussite provoque d'ailleurs des hostilités qui les font douter de leur engagement et mettent même leur amour en péril. Vengeance basse des voisins qui détruisent leurs clôtures et empoisonnent Gaspard leur chien, contrôle sanitaire difficile et toujours plus hostile, renoncer les effleurent bientôt. Mais la présence d'une ancienne amie Françoise mariée à un Anglais, des voisins qui ont racheté un vignoble, leur redonne du courage. Au même titre d'ailleurs que le frère d'Isa qui vient de temps à autre les aider. Magnifique de poésie, avec de superbes descriptions des paysages, belles descriptions aussi des sentiments qu'ils apportent à leur troupeau. J'ai adoré ces 340 pages qui viennent de paraître aux éditions Terre de Poche de Boré, 8,90€. Vivement recommandé. Deux femmes, deux auteurs, Maloria Cassie, lectrice compulsive de romances, découvre l'écriture en 2017. Depuis, auteure de deux séries, elle est accompagnée par Marlene Naumann, également auteure de plusieurs stories, ainsi que de romans publiés dans le format poche. Toutes deux nous convient à la présentation de leur dernier titre, Comme une ombre au tableau. Un gros moment avec l'art pictural, l'Irlande, ainsi que la vente aux enchères et le domaine de l'expertise. Un texte fort bien mené, où la nature et la peinture possèdent ses secrets au même titre que leur propriétaire. Gala Karine Conton est une londonienne passionnée de peinture française. Ses parents, très tôt, ont orienté cet intérêt sans le savoir, puisqu'ils sont morts tous les deux dans un accident de la route. La jeune Gala a la chance d'avoir fait son métier autour de sa passion. Elle travaille au sein d'un grand cabinet d'expertise, même si le plus souvent, elle se retrouve à devoir estimer la valeur de petits objets. Cependant, les maîtres français qu'elle a étudiés jalonnent toujours son esprit. Et un événement pourrait peut-être tout changer. Car elle est appelée et recommandée par sa direction pour estimer en Irlande un héritage, celui d'un grand collectionneur d'art, William Fiduncan, décédé depuis peu. Sur place, elle rencontre Owen, son frère, qui a dirigé toute sa vie vers une distillerie de whisky. Luke, le fils du défunt, qui vit et dépense l'argent de son héritage sans compter. Les deux hommes ne semblent pas s'entendre réellement, d'ailleurs, sur la façon de procéder à l'expertise. Et la présence de Gala semble un sujet supplémentaire de discorde. Après des premiers travaux d'expertise, une ombre semble planer sur l'authenticité des œuvres. Et la jeune femme devra démêler les faux semblants, découvrir la vérité. Surtout qu'Owen est bien mystérieux. Surtout aussi que les résolutions de la jeune femme sont claires. Elle ne désire nullement mélanger professionnalisme et côté intimiste d'une relation avec ce dernier, malgré d'ailleurs une très grande attirance de la part de tous les deux, de ces deux personnages. De plus, Luc le fils aussi sait se montrer fort galant et assez entreprenant. Comment cette dernière va réagir et solutionner le problème qui est posé ? La réponse se retrouvera dans les 300 pages qui sont publiées par l'éditeur Hugo Poche, 7,90€. Gilbert Borde, instituteur et journaliste, se consacre actuellement pour ses deux passions, la lutherie et l'écriture. Il est auteur de plusieurs titres et la lutherie trouve ici un accent tout particulier grâce à sa connaissance dans ce secteur. Le titre de son ouvrage, La belle main. De fausses pistes, un texte intelligent et des intrigues qui tiennent le lecteur en haleine dans l'attente de la suite de l'histoire. Pourquoi Josette, employée modèle qui élève sa fille seule, s'oppose-t-elle aussi violemment à cette dernière, qui est prénommée Solène, qui a décidé d'aller au château de Morée en Sologne pour garder les enfants du docteur Brogère? La jeune adolescente a tout juste 17 ans. Elle fait des études de droit et elle a décidé de gagner un peu d'argent durant les vacances afin de continuer d'être un peu plus à l'aise durant ses études. Mais sa mère marque un refus terrible, celui de la laisser partir comme gouvernante en Sologne. Pourtant, Solène s'en va et prend ce poste tant désiré. Depuis longtemps, Solène a choisi et compris que sa mère, qui vit en recluse à Paris, lui cache un secret énorme. C'est au hasard d'une partie de cache-cache dans le grenier du château et à la lecture d'un vieux journal trouvé dans ce même grenier que l'étudiante en droit découvre alors une terrible vérité liée à la résistance en Corrèze durant la Seconde Guerre mondiale. À la faveur d'une réception, Solène rencontre Paul, de 20 ans son aîné. Leurs regards se croisent, s'accrochent avec la force de ces instants qui changent le destin. Paul est un compagnon de résistance du docteur Brogère, mais il est aussi un luthier d'exception, passionné par son métier. Tout au moins, avant que sa femme ne le quitte. Depuis, il est devenu alcoolique, meurtri aussi par ce qu'il a vécu durant la guerre et la résistance. Son penchant pour la bouteille lui a fait perdre la belle main de luthier. Mais peut-être que Solène pourra le sauver. Éprise, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'éloigner d'un débit de boisson. En cet été 1965, Hélène Solène réveille alors les ombres d'un passé trouble. Difficile pour elle-même, au risque de se perdre, mais elle possède du courage et de la détermination. 250 pages qui ont paru aux éditions de Boré, Terre de Poche, que vous pourrez acquérir pour la somme de 8,10€. Cet auteur, Morgane Montclan, après des études de lettres dans la capitale, s'est consacrée à l'écriture, et ce depuis 12 ans environ. Elle est auteure de différents best-sellers. Elle nous propose un roman particulier, où l'ambiance de cabaret haut en couleur et en joie est très présente, ainsi que la description des relations familiales parfois très complexes, vécues à l'adolescence, et aussi cette étrange relation qui lie des sœurs chez jumelles. Le titre de son ouvrage, En équilibre. Lara, 17 ans, vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle, qui s'appelle Amélie. Toutes deux sont fusionnelles et elles sont passionnées par les acrobates dont on peut admirer l'aisance dans les cirques. Leurs parents les ont inscrites dans un club où elles peuvent régulièrement s'entraîner. Mais pour Amélia, le cerceau aérien devient seulement un hobby et elle désire arrêter l'entraînement. Alors que pour Lara, il reste fondamental. C'est pour cette dernière une façon de respirer, d'exister, et elle désirerait en faire son métier, se produire sur la scène des plus grands cabarets du monde. Seulement, ses parents ne voient pas réellement les choses sous cet angle, puisqu'ils désirent qu'elle s'engage dans des études d'architecture. De plus, si les deux sœurs se ressemblent en tout point, puisqu'elles sont jumelles, il y a cependant une chose qui les différencie totalement. L'une est mince, svelte, et Lara est considérée comme une fille potelée, voire un tantinet grosse. une image douloureuse à porter et qui est génératrice d'une très grande anxiété pour la jeune fille, qui d'ailleurs va devoir lutter contre ses démons et ses tocs qui lui rendent la vie fort difficile. Elle désire malgré tout être prête à prouver qu'elle aime son corps et qu'il l'empêchera jamais d'être la meilleure perchée dans les airs. Surtout que suite à la défection de sa sœur Amélie, elle rencontre Kazé et s'installe entre eux un amour, une passion pour cet art qui est pourtant si difficile. 440 pages parues aux éditions Hugo Poche que vous pourrez acquérir pour la somme de 7,90 €. L'auteur né à Osaka est dramaturge et a produit et dirige le groupe de théâtre Sonic Snai. Ses ouvrages sont considérés comme des best-sellers internationaux et sont vendus à plus d'un million d'exemplaires au Japon. Ils sont traduits dans plus de 30 pays. Je vous propose de lire ce petit bijou d'émotion et de tendresse, ainsi qu'un texte qui est aussi une invitation à savourer la vie au présent. Il s'agit du titre « Le café du thon retrouvé » de Toshikazu Kawaguchi, traduit du japonais par Mathilde Tam Bobon. La légende raconte qu'un petit café toscoïte possède et propose une expérience unique à ses clients, voyager dans le passé. Et ce, le temps d'une tasse de café, à consommer obligatoirement avant que ce dernier refroidisse. Sinon, la personne, le client, ne pourra plus jamais accéder au royaume des vivants. Gotaro voudrait revoir son ami décédé, il a plus de 20 ans, car il a adopté sa fille qui va bientôt se marier. Yuko doit et veut dire à sa mère combien il s'en veut de n'avoir pu être près d'elle plus souvent. Katsuki désire retrouver la jeune fille qu'il regrette de n'avoir épousée. Et Koyoshi, un vieil enquêteur, désire offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux qu'il n'a pu donner suite à un accident de la route qui a causé sa mort. Ces personnages vont-ils pouvoir se réconcilier avec leur passé, sachant que leur présence et leur action ne pourra en rien changer leur vie ni celle de leurs proches. 225 pages de ce conte généreux qui vous emporte dans une belle fiction. Il est paru aux éditions Albin Michel et vous pouvez l'acquérir pour la somme de 18,90 €. Par la grâce d'une prose colorée, volontairement parfois drôlatique, l'auteur, Maurice Boucher, nous offre une vision de la vie en montagne. Le texte touche par ses fulgurantes son ode à la nature. Bouillonnante, sa foi en la femme libre, son amour pour les animaux et son grand respect pour l'être humain. Avec son style direct et pénétrant, il nous propose un livre qui sera inoubliable. Il s'agit de « Le hameau de Jeanne ». L'auteur, à la retraite, décide de saisir sa plume et de partager sa passion pour la nature, au travers des personnages authentiques et avec un style où l'humour pointe sous sa sensibilité. Il nous raconte la vie réelle, inspirée par celle des gens de la terre dont il est le fils. Au cœur de la montagne alpine, Jeanne vit seule dans un hameau abandonné avec son chien Flocon, sa chatte Basté et sa poule Cosette. Son unique voisinage, la famille Rondeau, le père Marcel, la mère Aline et la petite fille adolescente Mijot. Pour des raisons intentées obscures, le père est totalement Jeanne, qu'il surnomme d'ailleurs la folle. Heureusement pour celle-ci, il y a parfois des randonneurs qui passent dans la région. Elle a remis en presque état la ferme qu'elle a achetée. Derrière sa maison, elle a levé les mauvaises herbes, mis de l'herbe et des fleurs, qu'elle apporte parfois d'ailleurs à la Vierge, qui est située dans une petite chapelle à proximité qu'elle a entièrement restaurée. Paul, instituteur à la retraite, passionné par la marche et la nature, la rencontre par hasard au détour d'une balade au cœur des montagnes, voulant s'approcher d'un col ayant une superbe vue. Il se lie d'amitié doucement lors de ses diverses rencontres avec Jeanne, qui se sent aussi très proche de la nature et vit seule dans le hameau. Doucement, nous vivons au fil des pages une merveilleuse amitié intergénérationnelle également avec la rencontre de Mijot, qui appellera cette dernière Mamie Jeanne. Dans ce très beau texte que je vous recommande vivement, nous avons un hymne à la vie montagnarde et aux personnalités diverses que l'on croise et aussi une très belle réflexion fort intéressante sur les croyances et les superstitions. J'ai adoré cet ouvrage de 270 pages environ, paru aux éditions de Boré, Terre de Poche, que vous pouvez acquérir pour la somme de 8,10 €. Magnifique aussi cet ouvrage de Frédéric Freinet, auteur de différents titres, également de pastiches ou bien encore d'essais que l'on retrouve des biographies d'écrivains ou des artistes peintres. Il nous propose l'amour de la lecture. George Sand ne disait-elle pas à Flaubert « Tu aimes trop la lecture, elle te tuera ». L'auteur, dans une préface, mentionne aussi « Suis-je capable d'écrire un livre inutile ?» Et si finalement, c'était ça l'enjeu, le défi. Défi totalement relevé, une petite merveille de langage et d'idées. Se souvenir, c'est vivre, aimer, penser une seconde fois, en mieux. Et si lire, c'était aussi se souvenir, mais de quoi ? Le passé réserve bien des surprises. On apprend tout dans un livre, sauf à mentir. On y découvre qu'aimer, c'est apprendre à lire, et que lire, c'est apprendre à aimer. Lire absolument ces 140 pages, une petite merveille qui est parue aux éditions Albin Michel et que vous pouvez acquérir pour 15 euros. Je vous emporte un temps avec la poésie. L'auteur, originaire du Québec, a étudié la littérature à l'Université du Québec à Montréal. Elle travaille dans le milieu de l'édition depuis 2011 et elle nous propose son tout premier ouvrage « Marche à voix basse » de Nelly Desmarais. Quand j'aménageais dans le quartier Hocheux-Laga, je pensais avoir tout gâché, tout perdu. Autour de mon appartement, il y avait des ouvrières et des enfants d'autrefois. Il y avait des filles de la rue. Leur présence comme une menace, mais aussi un mystère, un espoir. Un jour, je descendrai les rejoindre pour de bon, mentionne-t-elle. À l'aveugle, le couvent d'Hochelaga, on n'empêche pas un cœur d'aimer. Portrait robot, échec domestique, incendie du cinéma, Laurier Palace, déposition, les bas quartiers ou encore fièvre. Elle nous propose dans ses 170 pages des poèmes. Et puis, je voudrais, avant de quitter cet auteur, vous en donner un petit exemple. Les grandes histoires d'amour commencent au guichet automatique. Quand tu te parles à voix haute, quand tu marches à reculons. Laissez-vous emporter par la voix parfois triste ou nette, par ces courtesses qui sont parues aux éditions Cartarnière, 17 euros. Et je terminerai avec cet ouvrage, le nouveau roman fascinant du plus grand espion de l'Égypte ancienne. Égyptologue et romancier, Christian Jacques est l'un des auteurs français les plus lus de la planète. Ses titres sont considérés comme des best-sellers. On nous propose aujourd'hui la mission secrète de Sinoué l'Égyptien. Au moment où l'Égypte s'apprête à rouvrir son musée du Caire, où l'on commémore la révélation par Champollion du secret des hiéroglyphes, et où l'on s'apprête à célébrer le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, l'auteur, dans la pure tradition du scribe égyptien, nous offre un voyage dans l'Égypte ancienne entre érudition et talent de conteur. Comme il le mentionne dans son avant-propos, c'est avec enthousiasme que j'ai entrepris de ressusciter un personnage, Sinoué, héros d'un roman d'aventure du Moyen Empire égyptien, rédigé il y a 4000 ans par un romancier génial et inconnu. J'ai mis mes pas dans ceux de cet auteur anonyme dans l'œuvre. Le premier récit d'espionnage connu fut un best-seller sous les pharaons et demeure aujourd'hui le texte classique qui sert de modèle pour l'apprentissage de la lecture des hiéroglyphes. Ce grand héros, remis à l'honneur, redoutable chef des services secrets du roi Amenemhat, avait la mission d'identifier l'ennemi caché en Palestine qui cherche à fédérer les tribus pour envahir l'Égypte. Contrat périlleux, d'autant que Sinoué est accusé à tort de l'empoisonnement d'Amenemhat et qu'un de ses adjoints ne tarde pas à le trahir. Amoureux d'une femme extraordinaire, merveilleuse, soutenue par le vieux qui l'a éduqué et qui croit en son innocence, Sinoué, au retour de sa mission, parviendra-t-il à faire éclater la vérité avant d'être exécuté? De manière subtile, mais sans ambiguïté, l'auteur nous emporte et nous fait vivre une période forte, et ce, entre un roman magique où un âne possède un pouvoir et la rédaction d'un formidable récit. Absolument superbe. Un livre de 380 pages généreux en informations et dans l'écriture addictive. Il est paru aux éditions XO et vous pouvez l'acquérir pour la somme de 21,90 €. Prévoir d'ailleurs et conserver en esprit cet ouvrage pour les cadeaux de fin d'année. Vous avez fait votre choix, chers auditeurs. Vous pourrez écouter à nouveau cette chronique dans nos archives sonores si vous le désirez, ou bien encore la lire sur mon mur Facebook. Je vous souhaite pour ma part une bonne continuation avec notre programmation sur nos ondes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Via, via, vieni via di qui.